Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 6. Marc chapitre 6 au verset 14. Marc chapitre 6 verset 14. L'évangile de Marc, chapitre 6, à partir du verset 14, il est écrit ceci. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie », et d'autres disaient, « C'est un prophète comme l'un des prophètes ». Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Donc, une histoire assez triste. Une histoire que pour la plupart d'entre nous connaissons, mais quels enseignements pouvons-nous aujourd'hui tirer de cette histoire ? Lorsque je méditais sur ce passage cette semaine, ce qui m'a frappé, j'avais jamais vraiment remarqué, mais c'est à quel point Hérode, ce monsieur, appréciait Jean. Donc Jean lui faisait le reproche et lui disait, tu n'es pas dans la bonne voie, tu commets un péché parce que tu as pris la femme de ton frère et c'est une abomination. Et c'est la raison pour laquelle Jean était en prison. Mais malgré ça, comme on vient de le lire, Hérode appréciait Jean. Et c'est écrit, il disait, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, l'écoutait avec plaisir. Et comment aussi on peut voir que Hérode, au-delà d'apprécier Jean, il savait qui était Jean. Il savait que Jean était un serviteur de vérité, un serviteur puissant. Et comment on peut le voir? C'est parce qu'au départ, on nous dit, lorsque Hérode entendit parler de Jésus, eh ben Jean, il dit, c'est Jean qui a sûrement ressuscité. Et pourquoi se demander si Jean pouvait ressusciter? Ça veut dire qu'on voit à quel point Hérode considérait Jean. Hérode savait au fond de son cœur que ce monsieur était quelqu'un qui marchait dans la vérité. Parce que pourquoi, lorsque tu entends que quelqu'un fait des prodiges, en l'occurrence Jésus, parce que dans les chapitres précédents, on nous parle de la multiplication des pains, de plusieurs miracles que Jésus a accomplis, et c'est lorsque Hérode entend ça qu'il se dit « Tiens, n'est-ce pas ce Jean-là que j'ai fait décapiter qui est ressuscité ?» Donc la question qu'on peut se poser, c'est « Pourquoi se demande-t-il si ce n'est pas Jean ?» Et ça nous montre, c'est un indice supplémentaire qui nous montre qu'au fond de lui, ce monsieur-là, Hérode, savait qui était Jean. Au-delà du fait qu'il soit écrit, qu'il l'appréciait, mais il savait que c'était quelqu'un de vérité. Et d'autant plus que pourquoi il fait le lien entre Jésus et Jean-Baptiste, alors que la Bible nous dit, on va le lire dans Jean chapitre 10 au verset 41, Jean chapitre 10 au verset 41. Donc on pose le contexte pour pouvoir comprendre la chose. Jean chapitre 10 au verset 41. Voilà, il est écrit « Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait « Jean n'a fait aucun miracle. » Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Donc la Bible nous dit que Jean, durant sa vie, il n'a fait aucun miracle. Et malgré ça, lorsque ce Hérode entend parler des miracles de Jésus, premièrement, il se demande si ce n'est pas ce Jean-là qui est ressuscité. Et en plus, on vient de voir que, bien qu'il n'ait pas assisté à des miracles, Jésus, ses miracles, ça lui fait penser à Jean. Tout ça pour nous dire que, au fond de son cœur, malgré les reproches que Jean lui faisait, il savait que cet homme, c'était quelqu'un de vérité. Et bien qu'il sache tout ça, bien qu'il était touché, parce que d'après ce qui est écrit et d'après ce qu'on peut voir, on voit qu'il était touché, qu'il savait à qui il avait affaire. Malgré cela, un jour, il est parti, en tout cas, il a demandé à ce que Jean soit décapité. Et ça nous montre quoi ? C'est le thème d'aujourd'hui. Ça nous montre que la connaissance, savoir qui est Jésus, savoir où se trouve la vérité ne sauve pas. Parce que Hérode savait qui était Jean. Il savait que cet homme, c'était un envoyé de Dieu. Il savait qui il était au plus profond de lui. Mais malgré ça, un jour, dans un contexte particulier, il a été amené à faire décapiter cette personne. Et c'est le message d'aujourd'hui. As-tu réellement choisi Jésus ? Beaucoup d'entre nous, que ce soit ici, que ce soit ceux qui suivent sur Internet, savent où se trouve la vérité. Il y en a beaucoup qui aiment regarder des vidéos de différents prédicateurs, lire la parole de Dieu, dire « j'ai passé un bon moment dans la louange, là-bas il prêche bien, un tel, il dit des bonnes choses, quand lui il parle, je suis touché, quand je lis tel passage dans la parole, je sais que c'est la vérité ». Il y en a qui adhèrent au message de l'Évangile parce qu'ils reconnaissent que ce message est la vérité, mais malgré ça, ils n'ont pas fait le choix, ils n'ont pas saisi Jésus-Christ, ils n'ont pas renoncé. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Hérode savait au fond de lui qui était Jean, mais il n'a pas fait ce choix, il est resté, il a demeuré dans un compromis. Donc le compromis, c'est quoi ? C'est qu'il avait pris la femme de son frère, ce qui était un péché, une abomination. Il est demeuré dans ce compromis et ça l'a emmené à décapiter Jean. Or, il est écrit, on ne le lira pas quelque part, que de tous les hommes qui sont nés de femmes, c'est-à-dire de tous les hommes sur terre, il n'y a pas de plus grand que Jean, Jean-Baptiste. Et par manque de choix, par manque d'engagement, cet homme, Hérode, a été amené à tuer la personne dont on dit dans la Bible qu'il n'y a personne de plus grand que lui. Quelle abomination, quelle tristesse. Et on s'aperçoit que c'est une personne qui savait qui elle était. Et aujourd'hui, je reviens à notre message du jour, la question c'est, as-tu réellement choisi Jésus ? Est-ce que tu connais juste Jésus comme un faiseur de miracles, comme quelqu'un qui est amour, quelqu'un qui guérit ? Toutes ces choses-là sont vraies. Mais est-ce que tu as choisi vraiment de le suivre? Est-ce que tu t'es saisi de lui? Est-ce que dans ta vie, dans ma vie, il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui joue le rôle d'Hérodias? Donc Hérodias, c'est la femme en question, et on nous dit qu'elle n'aimait pas Jean. Elle n'aimait pas Jean parce que, voilà, elle avait d'autres projets, une autre manière de voir la vie, et ce Jean-là l'a dérangé fortement. Et nous aussi, lorsque on se dit chrétien ou qu'on adhère de plus ou moins loin à l'évangile, malheureusement, en tout cas, c'est ce dont je nous appelle à méditer aujourd'hui, des fois, il y a quelque chose qui joue le rôle de cette Hérodias dans notre vie. Des fois, ça peut être une relation de concubinage, de copine, copain. On sait que c'est pas bon. Comme ce Hérode-là, il savait que c'était pas bon. Il savait, comme on l'a dit, que ce que disait Jean était la vérité. Mais il a demeuré dans ce compromis et ça l'a amené à commettre un péché abominable. Ça peut être un membre de la famille qui nous tient. Ça peut être une culture. Ça peut être peu importe quelque chose qui joue ce rôle et qui nous tient, qui nous empêche de nous engager pleinement avec le Seigneur, qui nous empêche de faire le choix d'aller jusqu'au bout et, comme je le disais à l'instant, de nous engager, de saisir Jésus-Christ. Et comme je le disais, il ne suffit pas de connaître la vérité pour être sauvé, il faut la saisir. C'est, entre autres, ce que Jésus dit, « il faut me manger ». C'est ça qui a choqué beaucoup de personnes dans Jean 6. Il dit « il faut me manger ». Il ne suffit pas d'être là dans les environs, dans l'environnement, dans le paysage chrétien. Ce n'est pas ça qui sauve. Parce que cet homme, Hérode, était très proche, en tout cas proche de Jean-Baptiste. Il le côtoyait et on nous dit, voilà, on ne va pas se répéter, il aimait bien l'écouter. Mais malgré ça, un jour ou l'autre, comme il n'avait pas fait ce choix de saisir vraiment la vérité et de renoncer à ce péché, eh ben, il a été amené à commettre ce meurtre. Et tout ça pour nous dire, c'est un avertissement, que cette personne, cette pratique, cette chose qui dans ta vie, dans ma vie, peut jouer le rôle d'Hérodias, nous devons nous en débarrasser au plus vite. Parce que le fait que Hérode n'ait pas chassé cette femme, n'ait pas suivi ce que Jean-Baptiste lui disait de faire, et bien qu'il savait où se trouvait la vérité, et il a été perdu. En tout cas, il a assassiné Jean-Baptiste et d'une mort horrible par décapitation. Donc décapitation, c'est couper la tête de quelqu'un. Une parenthèse, c'est dans quel contexte cela se fait? C'est dans le contexte d'un anniversaire. Donc ça, c'est une parenthèse, mais pour nous rappeler aussi que nous devons être vigilants lors des grands événements de la vie. Donc on ne va pas dire qu'un anniversaire, c'est diabolique, c'est pas ça, c'est une grâce. Chaque année qui passe, nous nous réjouissons devant le Seigneur parce qu'il nous accorde. Mais on s'aperçoit que le moment qu'on a nommé de propice, si on relit le passage, on ne va pas tout relire, mais c'est dans Marc 6, on dit que c'est un moment propice. Et on parle de cet anniversaire. Et l'une des rares fois où dans la Bible on parle d'un anniversaire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est là qu'on a assassiné Jean-Baptiste. Donc si on reprend Marc 6... Voilà, au verset 21. « Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, ses chefs militaires, aux principaux de la Galilée. » Donc, un avertissement et un conseil. Lors des grands événements de nos vies, soyons vigilants. Un anniversaire, ça peut être l'occasion de chute, bien qu'on soit sérieux avec le Seigneur, mais il peut y avoir une pression de l'entourage ou quelque chose qui nous emmène à faire des choses ce jour-là que nous regretterions. Il y a aussi les mariages, autre grand événement de la vie, qui malheureusement des fois dévoilent certains comportements, dévoilent certains caractères. Tout d'un coup, on oublie la simplicité de Jésus-Christ. On veut cette robe, cette costume. Le fait de porter cette robe ou cette costume en soi, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est quelle est la motivation derrière cela. Les décès, tout d'un coup, un appel du pays ou un appel de la famille, on commence à vouloir nous embarquer dans une tradition qui est satanique, diabolique, alors que nous sommes chrétiens. Une naissance aussi, c'est un grand événement de la vie. Et dans la joie de la naissance ou dans l'euphorie, on donne un nom à l'enfant parce que c'était peut-être le nom d'un membre de la famille, mais ce nom-là ou cette personne avait peut-être des liens sataniques, des liens démoniaques. Et sans le savoir, on vient transmettre ces liens-là à l'enfant. Donc tout ça pour nous dire que dans les grands événements de la vie, mariage, naissance, anniversaire, etc., même l'obtention d'un diplôme, soyons vigilants. Ce n'est pas un appel à être paranoïaque, c'est juste comme le monde dit, un homme averti en vaut deux. Donc soyons vigilants parce que là, l'épisode qu'on est en train d'analyser ce matin, ça se passe durant un anniversaire. Donc avant ça, c'est vrai que la situation de Jean-Baptiste n'était pas au top, mais il était en vie. Et c'est pendant cette fête-là, dans les réjouissances, dans le désordre, la joie, que la décision de faire décapiter Jean-Baptiste est prise. Donc voilà, ça c'était une parenthèse, ce qui était important, on revient au sujet. Donc cet homme, Hérode, connaît la vérité, et malgré cela, il emmène à faire décapiter. On a aussi l'exemple des gens. On a parlé des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui suivent, qui aiment beaucoup les choses de Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand vous discutez avec eux, ils aiment parler avec vous de la Bible. Ils savent, en vous regardant, que vous êtes plus ou moins dans la vérité. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui les retient. Malheureusement, parmi ceux aussi qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont chrétiens, lorsqu'on refuse de renoncer à certains péchés, à certaines pratiques, tôt ou tard, comme nous l'avons lu, un jour propice, ou comme dans un autre passage dans la parole, il est écrit que le diable rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Donc tôt ou tard, le diable va se saisir de ce péché, se saisir de cette chose qui joue le rôle d'Hérodias pour nous faire chuter, comme il a fait chuter Hérode. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'orgueil. Beaucoup de gens t'ont parlé à propos d'une situation, d'un choix, d'un mode de vie que tu as choisi. Et au fond de toi, tu sais que c'est la vérité, mais parce que tu t'y es engagé, parce que tu n'as pas envie de reculer, de céder, tu continues. Un jour ou l'autre, cette décision te portera préjudice. Ça peut être l'amour du monde, bien qu'on ait donné notre vie au Seigneur, mais certaines choses, nous les conservons encore. Il y a des choses auxquelles on n'a pas encore renoncé. Un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, ça peut être tôt, tard, mais cette chose-là va jouer le rôle d'Hérodias. Parce que ce qu'on peut aussi apprendre lorsqu'on lit ce passage, c'est quoi? C'est que Hérodias n'aimait pas Jean-Baptiste. Et le péché, le Satan, n'aime pas Jésus-Christ, n'aime pas la sainteté, et a pour seul et unique objectif de nous sortir de la voie de Dieu. Donc lorsque nous sommes chrétiens, que nous connaissons la vérité, que nous évoluons dans la vérité, si nous conservons le péché dans notre environnement, nous ne pourrons pas dominer, gérer ce péché. Ce péché-là, les esprits qui sont derrière ces choses-là, un jour ou l'autre, nous ferons tomber. C'est l'enseignement qu'on apprend, c'est qu'on ne peut pas gérer, garder ça sous le coude. Peut-être Hérode se disait, voilà, j'écoute Jean-Baptiste, il est correct. En plus, c'est écrit, prenez plaisir. Et elle, je vais la gérer comme je peux. Mais le péché, les esprits qui étaient derrière cette dame étaient plus forts qu'Hérode et l'ont emmené à chuter. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, je le répète, c'est simple, c'est la connaissance des choses de Dieu, la connaissance de la vérité, ce n'est pas suffisant. Il faut s'engager. Pour marcher avec Dieu, il y a un choix à faire. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait du jour au lendemain, mais on doit faire le choix d'abandonner la vie de péché, d'abandonner les choses qui nous salissent. Et après, le Seigneur va faire son travail. C'est la pratique et le non-refus du péché qui est condamné. Après, le fait de tomber, parce que dans la marche chrétienne, ça peut arriver, le juste tombe, mais l'Éternel le relève. C'est le fait de n'avoir pas renoncé au péché qui est ici le problème. Donc c'est un appel, c'est un encouragement et en même temps, un avertissement, que le Saint-Esprit puisse ce matin nous parler à chacun, pour nous révéler s'il n'y a pas un péché, quelque chose qui nous empêche d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Cette chose-là, ça peut être aussi, nombreux savent que les choses de Dieu, la Bible, l'Église, c'est bien, c'est la vérité, mais ils se cachent derrière le fait qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de désordre dans l'Église, des choses que je ne nie pas, mais ce n'est pas parce qu'il y a des aventuriers que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et cette croyance-là, cette domination, c'est aussi une forme d'orgueil de croire qu'on est le seul à être juste. Un jour ou l'autre, ça va nous emmener à ne même plus considérer la parole qu'on considérait comme vraie et à se retrouver dans des choses plus abominables que ce qu'on était actuellement. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on doit être vigilant. Et nous allons lire aussi Matthieu chapitre 10 au verset 37. Matthieu chapitre 10 au verset 37. Matthieu, c'est une parole de Jésus qui... Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Donc voilà, c'est un passage qui nous montre, c'est des paroles qui peuvent paraître choquantes, mais le Seigneur nous dit ce matin que nous devons le placer devant toute chose. On a parlé du péché, mais là on parle de relations normales, de relations d'amour entre un père, une mère et ses enfants, un mari et sa femme, et vice-versa. Mais le Seigneur, dans cette parole, il ne faut pas négliger ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit que nous devons le placer devant toutes ces choses-là. Parce que ces personnes-là, ce sont des êtres humains. Bien qu'ils puissent, bien qu'ils nous aiment, comme il est écrit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et peut-être qu'un jour, ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur, ton époux, ton épouse, sans être mal intentionnés, vont peut-être te donner un conseil qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et si le lien qui te lie à ce membre de la famille, cet ami, est plus fort que le lien qui te lie à Dieu, eh ben tu t'éloigneras, tu sortiras de la volonté de Dieu. C'est ce que ce passage veut dire. C'est-à-dire que nous devons mettre Jésus-Christ devant toute chose. Il n'y a rien qui doit prendre sa place. Et on nous dit dans la suite, celui qui conservera sa vie la perdra. Et quel est le lien avec le passage qu'on a lu ? Hérode, pourquoi il a fait décapiter Jean-Baptiste ? Premièrement, parce que c'était un plan de son épouse Hérodias. Mais deuxièmement, lorsqu'on lit le passage, c'est écrit que c'est parce qu'il s'était engagé. Il avait fait des serments, il y avait ses invités, il y avait beaucoup de monde. Parce qu'à ce moment-là, il aurait pu dire « Stop, cette demande-là, je ne vais pas... » Ils répondent favorablement pour X ou Y raison, mais il aurait pu dire stop. Mais ça allait lui coûter son honneur, ça allait lui coûter sa dignité, sa parole, son statut de roi ou d'autorité dans la région. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Celui qui veut conserver sa vie, conserver son honneur, eh ben, il va perdre sa vie. Il y a des gens qui sont estimés, qui ont un statut social élevé dans la société, mais qui refuse de venir à Dieu parce que peut-être que dans l'assemblée, on ne le mettra pas à la première place. Et donc c'est ça qu'on appelle conserver sa vie. Tu peux être un grand médecin, un grand footballeur, une grande auteure, peu importe, un grand chercheur, mais face à Dieu, tu n'es rien du tout. Et c'est ce que Dieu nous dit, celui qui veut... garder l'estime de soi-même, avoir peur d'avoir honte pour le Seigneur, il finira par perdre toutes ces choses-là. Et Hérode, il aurait pu dire, on revient à notre texte, Hérode aurait pu dire, cette demande-là, je n'y accède pas. Mais bon, on peut relire, hein, on retourne dans Marc 6. C'est écrit au verset 26. Voilà. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Donc parce qu'il a trop parlé, parce qu'il s'est engagé, il a commis cet acte abominable. Ça nous fait penser aussi, alors ce n'est pas vraiment le même contexte, à Ponce Pilate. Ponce Pilate, il savait que Jésus était juste. Il le dit lui-même. Et comme on nous dit souvent, normalement celui qui prononce un jugement, avant de l'avoir prononcé, il doit même pas donner son avis. Il dit lui-même que Jésus, il est juste. Il dit, mais il n'a rien fait. Sa femme vient lui dire, fais attention parce que j'ai fait des rêves à propos de cet homme. Et voilà, Ponce Pilate savait qui était Jésus. En tout cas, il savait qu'il n'y avait rien pour le condamner. Mais par rapport à la pression populaire, par rapport à son statut, par rapport au fait, comme on a dit, de ne pas renoncer à ces choses-là, c'est lui qui a donné son accord pour emmener un juste à la croix. Et on voit au travers de ces exemples, Ponce Pilate, Hérode et bien d'autres, et même nous dans notre vie, celui qui veut conserver son honneur, conserver sa dignité, il finira par perdre. Face à des plus jeunes que soi, on a commis un tort, commis un méfait. La Bible nous demande de demander pardon. Mais comme j'ai 15, 30, 20 ans de plus que la personne, je refuse de m'humilier devant cette personne. Et ben, on sort comme ça de la volonté de Dieu. On peut même semer une certaine forme de rancœur dans le cœur de cette jeune personne à qui on a fait du mal parce qu'on a refusé de s'humilier devant elle. On est face à une situation au travail qui nécessite peut-être la prière, mais on se dit, si je propose la prière, on va me prendre pour un fou. Si je dis, bon, prions pour cette situation, pour, ce contrat qui semble difficile à signer, ce client qui est compliqué, cette personne, si je dis prions pour cela ou pour le collègue qui a une situation difficile dans sa vie, on a honte de dire ça, et ben c'est comme ça qu'on s'éloigne peu à peu des voies du Seigneur et on ne met pas en action notre foi. Et voilà, on peut finir par perdre la foi parce qu'on n'a pas renoncé à perdre sa vie. Voilà, je ne vais pas être exhaustif, complet, mais c'est quelques exemples qui nous montrent quand le Seigneur dit que nous devons le mettre devant toute chose, ce n'est pas pour rien, et que nous devons être prêts à nous sacrifier, à perdre pour pouvoir le suivre. Et je rappelle la question, le thème du jour, c'est « As-tu réellement choisi Jésus ?» Parce que comme on a dit, il ne suffit pas de savoir que Jésus, c'est la vérité, il ne suffit pas de savoir qu'il a été crucifié. Il faut le saisir, il faut faire le choix, l'engagement, il faut prendre l'engagement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le chant qu'on a chanté ce matin, « J'ai choisi de suivre Jésus ». Et dans le chant, on nous dit plusieurs éléments qui peuvent jouer le rôle d'Hérodias. Mes amis le laissent ou me laissent, mais moi je le suis. Ça peut être ces amis-là qui t'empêchent de prendre la décision de suivre Jésus. Mais la marche chrétienne, c'est en même temps une marche collective parce que nous sommes dans l'Église. Mais en tout cas, pour y entrer, pour accéder au salut, c'est un choix personnel. Et méfions-nous que ce ne soit pas nos amis, nos connaissances, notre environnement qui jouent ce rôle-là. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va s'opposer à notre marche chrétienne. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, je crois, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Ça peut être les compagnies, souvent on pense à des personnes, mais ça peut être des mauvaises habitudes. Regarder des mauvaises séries, des mauvais films, écouter certaines chansons qui font la promotion de la violence, l'impudicité, toutes ces choses, c'est du spirituel, ça rentre dans le cerveau et ça produit des choses dans nos vies. C'est la raison pour laquelle il faut, ce que n'a pas fait Hérode, se débarrasser de ces obstacles qui s'oppose directement à notre communion avec Dieu. Et avec le Seigneur, tout, ça fonctionne par des choix, des engagements. Il y a un adage qui dit aussi, choisir, c'est renoncer. Donc lorsqu'on choisit, forcément, on renonce à quelque chose. Si je choisis d'aller à droite, je ne pourrai pas aller à gauche en même temps. Si je choisis d'aller à gauche, je ne pourrai pas aller à droite en même temps. Et choisir le Seigneur va forcément impliquer de perdre. Et nous allons lire deux exemples. On va les lire à la suite, parce que quand on les lit à la suite, on voit vraiment, c'est marquant, la différence de comportement. C'est Luc 18, à partir du verset 18. Luc 18, à partir du verset 18. Je rappelle la question, as-tu réellement choisi Jésus ? Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et on va au chapitre 19, le suivant, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Donc là, on voit deux situations, deux rencontres avec Jésus et deux attitudes totalement différentes. La première, c'est le jeune homme riche qu'on connaît. Et donc, au-delà du fait d'être riche, ses caractéristiques, c'est que déjà, il sait qui est Jésus parce que il l'appelle bon maître. Et Jésus lui dit, mais il n'y a de Dieu que bon. Il n'y a de bon que Dieu, excusez-moi. Et donc, en d'autres termes, si tu m'appelles bon, c'est que tu reconnais que je suis Dieu. Donc, ce jeune homme savait à qui il avait affaire. Et on revient à notre passage d'introduction. Hérode savait à qui il avait affaire avec Jean-Baptiste. Et ce jeune homme, il rencontre Jésus et il lui dit, mais que dois-je faire pour hériter, avoir la vie éternelle? Et Jésus lui donne les conditions. Voilà, vends tous tes biens et suis-moi. Et en plus, il y a un détail que je n'avais jamais remarqué, c'est que malgré le fait qu'il lui dise de tout vendre, il lui dit quand même... Voilà, Jésus lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Et il ne s'arrête même pas là, hein. Malgré ça, il lui dit, tu auras un trésor. Donc il lui assure même une récompense. C'est même pas, il lui dit, jette tout et tu auras tout perdu. Donc Jésus-Christ lui donne les conditions, lui donne tout. Et cet homme savait qui était Jésus-Christ. Et voilà, on peut lui poser la question qu'on se pose aujourd'hui, as-tu réellement choisi Jésus? Parce qu'il appliquait les commandements, il était probablement plus parfait que nous tous ici présents. Il savait à qui il avait affaire. Ça faisait X années qu'il pratiquait la parole. Mais face au moment crucial, il n'a pas pu faire le choix, il n'a pas pu s'engager à suivre le Seigneur. Et on voit totalement l'opposé avec Zachée. Zachée qui était le chef des publicains. Donc publicains, c'était les personnes envoyées par les Romains. Leur rôle, c'était de collecter les impôts. Parce que les Romains, c'était comme des colonisateurs en Israël. Et ils avaient chargé des propres juifs qui étaient chargés de collecter l'impôt pour le redistribuer aux Romains. Donc dans la population juive, ces gens-là étaient vus comme des traîtres. Et Zachée, c'était le chef de ces personnes-là. C'est pourquoi, c'est pour qu'on puisse comprendre à quel point Zachée était mal vu. Et en plus, ils étaient réputés pour prendre plus que ce qu'on leur avait demandé. Donc c'était des gens très riches qui prenaient plus. Et voilà. Et Zachée gérait ces personnes-là. Et par contre, Zachée, il a appliqué tout ce que Jésus nous a dit dans le passage qu'on a lu. Il a affronté la honte parce qu'il était petit, c'était un adulte. Et sa petite taille l'a poussé à monter sur un arbre. C'est comme si nous ici, on a nos parents, nos pères, et vous le voyez un jour monter sur un arbre, mais tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce truc? Et malgré ça, Zachée n'a pas aimé sa propre personne. Il a su s'humilier. Il est parti monter sur cet arbre. En plus, à l'époque, ce n'était pas forcément des pantalons. Ça devait être peut-être des sortes de djellaba, des trucs où on peut voir les sous-vêtements. Malgré ça, il a fait l'effort de s'humilier, malgré sa position. Et lorsqu'il rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille de tout ce qui fait sa force. Il dit qu'il donne tout l'argent, il renonce. Et comme on a dit tout à l'heure, faire un choix, ça implique forcément de renoncer à quelque chose. Et pour choisir Jésus, as-tu réellement choisi Jésus? On peut poser la question autrement, c'est est-ce que tu as renoncé à tout ce qui t'empêche de suivre Jésus? Donc vous choisissez la question que vous voulez, as-tu réellement choisi Jésus ou ai-je renoncé à tout ce qui m'empêche de suivre Jésus? Et un autre exemple pour conclure, c'est Philippiens chapitre 3 au verset 4. Philippiens chapitre 3 au verset 4. C'est l'exemple de notre cher frère Paul, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la foi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. On va s'arrêter là. C'est un merveilleux passage. Et on voit notre ami Paul qui a renoncé à tout ce qui faisait sa force. Il le dit lui-même, parce que être hébreu, c'est une fierté. Même aujourd'hui, bien que les gens sachent que le salut, quand je dis les gens, bien que les chrétiens sachent que le salut s'obtient en Jésus, mais on retrouve dans certains milieux comme un complexe. Des gens qui aimeraient bien quand même, malgré le fait d'être déjà sauvés, se dire juifs. Dire que voilà, moi aussi je fais partie de ce peuple en quelque sorte. Et ils vont beaucoup utiliser des mots en hébreu, etc. Tout ça pour nous dire que le fait d'être un hébreu, c'était quelque chose. En plus, lui venait d'une secte ou d'un groupe qu'on appelle les pharisiens. Donc il maîtrisait la loi. Il avait un statut particulier dans ce contexte. Mais toutes ces choses qui constituaient pour lui une force, afin de gagner Christ, afin de choisir Jésus et de vivre une foi totale, il dit lui-même, il les a regardées comme de la boue. Il s'est dépouillé de toutes ces choses. On a parlé tout d'abord du péché qu'il fallait se débarrasser, mais aujourd'hui et maintenant, on dit que finalement, même ce qui peut être positif dans le monde, des diplômes, un poste, un statut social, une position dans la famille, et bien toutes ces choses, il faut pouvoir s'en débarrasser pour pouvoir suivre Jésus-Christ. La position d'aîné dans une famille, si tu dois t'humilier devant ton petit frère, ta petite sœur, pour gagner Christ, pour qu'eux aussi puissent accéder au salut, et bien il faut pouvoir le faire. Si c'est devant tes enfants, si c'est devant des collègues qui, malgré leur mauvais comportement, tu dois t'humilier, et bien pour gagner Christ et pour qu'ils puissent voir Christ, il faut accepter de le faire. Et c'est parce que Paul a fait toutes ces choses qu'aujourd'hui, on a ces épîtres, on a ce message de l'Évangile dont Paul a contribué en grande partie. Une grande partie de l'Ancien Testament, si ce n'est peut-être la plus grande partie, a été composée par Paul. Pourquoi? Parce qu'il a choisi Jésus-Christ et il a renoncé à tout ce qui faisait sa force. Alors je ne sais pas ce qui peut faire ta force, Ça peut être l'argent, ça peut être la beauté, ça peut être la force physique, ça peut être ton nom de famille, ça peut être beaucoup de choses. Ce matin, je nous appelle à renoncer à ces choses-là et à choisir Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous venons te prier ce matin. Nous voulons te dire que nous voulons te choisir réellement, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter de te connaître, de t'observer, de savoir où tu te trouves et qui tu es. Parce que beaucoup de gens savent où se trouve la vérité. Beaucoup de gens s'abreuvent de messages bibliques sur YouTube et autres réseaux à longueur de journée, mais leur vie n'est pas transformée. Nous te prions ce matin que tu nous donnes la force de nous débarrasser de tous les fardeaux, de tous les obstacles, que ce soit le péché, que ce soit une addiction, une relation, une mauvaise pratique. Seigneur, nous te prions de briser ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Nous te disons, Seigneur, que nous voulons faire le choix de te choisir, que nous voulons vivre toute notre vie à 100% pour toi, que rien, Seigneur, dans nos vies, dans notre environnement, nous empêche de te suivre, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'argent, la peur de perdre, que ce soit la santé, que ce soit un membre de notre famille, quelqu'un qui est puissant dans la famille, nous refusons de céder à ces pressions-là. Merci pour le fait que tu te révèles encore une fois à nous. Merci pour la main que tu nous tends ce matin. Et nous te prions, nous te disons que nous voulons tous la saisir. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Gloire à Dieu. Nous sommes contents d'écouter le message qui nous rappelle des choses comme ce qu'Hérode a vécu. Il est content de tout, sauf qu'il ne s'engage pas. Et vous savez, quand on ne s'engage pas, on finit par être engagé par qui ? Par le diable. Parce qu'il n'a pas voulu s'engager avec Dieu pour faire des bonnes choses avec Jean-Baptiste. Il a fini par faire quoi ? Par tuer Jean-Baptiste. Quand on ne s'engage pas avec Dieu, on finira par tuer l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est irrémédiable, c'est comme ça que ça se passe. Où tu choisis le Seigneur, où tu choisis Dieu, où tu finiras par être un ennemi de Dieu. Vraiment, faire attention à cela, le plus tôt possible, choisir le Seigneur. Nous allons chanter ce chant, « J'ai choisi Jésus pour guider ma vie ». C'est le meilleur choix à faire pour... c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Plus on attend... Plus on se construit parallèlement à être ennemi de Dieu. Et on ne parle pas seulement de la conversion, hein, de tout ce qui nous a été cité, tout ce qui fait que tu n'es pas à 100% avec Jésus. Tu devrais peut-être accepter une autorité de ton mari que tu n'acceptes pas, l'autorité d'un pasteur que tu n'acceptes pas. Tout ce qui t'empêche d'être à 100% avec le Seigneur, renoncer à ta maison, voilà. Il y a plein de choses qui font que nous savons au fond de nous ce qui est bien, mais par caprice, comme ça, nous ne renonçons pas. Et on finit par devenir ennemis de l'œuvre de Dieu. Nous allons donc chanter ce chant qui dit « J'ai choisi Jésus pour guider ma vie ». Alléluia.
J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions.
Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort? fils de Marie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau.
Jésus est descendu pour me rapprocher de mon Père dans les cieux. Il n'a pas tenu compte de ma vie passée dans le péché. Par sa mort et sa résurrection, je suis créé de nouveau. J'attends avec joie le merveilleux jour de son retour. Avec tous les sauvés, je chanterai Alléluia. Oh, Alléluia.
Loué l'Éternel.
Loué l'Éternel.
Loué l'Éternel.
Oh, Alléluia.
Loué l'Éternel.
Loué l'Éternel.
De
tous ceux qui respirent, loué l'Éternel avec nous.
Loué l'Éternel.
De tous ceux qui respirent, loué l'Éternel avec nous.
Loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel.
Alléluia, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Alléluia. Nous allons donc donner l'opportunité à certains de passer le cap d'Hérode, de ne pas rester dans la beauté du discours, la beauté des chants, mais de dire oui à Jésus. Donc si parmi nous, il y a quelqu'un qui veut dire oui à Jésus, dire « Jésus, je veux maintenant te suivre, j'ai longtemps hésité ou bien voilà, je n'avais pas encore compris les choses. Aujourd'hui, à partir de cette prédication, j'ai compris que Hérode, qui était content d'entendre la parole de Dieu, a été finalement conduit à devenir ennemi de Dieu parce qu'il traînait trop à décider à suivre le Seigneur. Donc nous allons passer du discours de félicitations à l'engagement. Donc s'il y a quelqu'un qui veut s'engager à suivre Jésus, il peut passer devant ici, nous allons prier pour lui, il n'y a pas de honte à voir. C'est le jour de la décision, quand on entend un message comme ça, il faut passer à l'acte pour ne pas rester dans la théorie, dans le cœur. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, ben, qu'il passe devant et nous allons prier pour lui, et sa vie va être changée aujourd'hui. Voilà. Donc pendant que je prie, s'il y a quelqu'un qui veut, qui passe. Seigneur, nous venons prier que tu touches les cœurs, que tu transformes les cœurs, et même à distance, si tu suis par Internet, tu fais un pas public au milieu des personnes qui sont avec toi là-bas, pour montrer qu'aujourd'hui, toi, tu ne veux plus rester dans la théorie, tu veux maintenant avancer avec Jésus. Seigneur, merci d'agir. Qu'aujourd'hui soit le jour du changement pour toute personne qui a entendu ce message et qui doit prendre la décision. Merci de te manifester. Nous nous attendons à toi pour tout. Merci de toucher les cœurs et de faire en sorte que la vie des uns et des autres ne soit plus la même après ta parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, ben, gloire à Dieu. Nous espérons que la fois prochaine, ça sera l'occasion pour d'autres de donner leur vie au Seigneur.